À vue d'esprit, Catherine Erard, bonjour. L'histoire l'a presque oublié et pourtant, lui, l'ami de Calvin, de Farel, va énormément contribuer à la propagation des idées de la réforme en Pays de Vaud et au-delà. Lui, c'est Pierre Viret et à l'occasion des 500 ans de sa naissance, à vue d'esprit se penche sur la réforme en Pays de Vaud et aujourd'hui en particulier sur les bailliages qui vont opposer pas mal de résistance aux nouvelles idées. Une émission proposée par Evelyne Auberçon et réalisée par Marc Frochot. Si je vous dis Calvin, à coup sûr vous me dites Genève. Mais si je vous dis Viret, il y a peu de chances pour que vous me répondiez Lausanne ou Pays de Vaud. C'est bien la preuve que Pierre Viret est le réformateur oublié et d'ailleurs il existe très peu d'études historiques sur Viret et la réforme en Pays de Vaud. Bien que Evelyne Auberçon, votre invitée, est en train précisément de combler ce manque.
Oui, sans aucun doute. Karine Crouzac est historienne, maître assistante à l'Université de Lausanne. Même aujourd'hui, elle est une de ces rares historiennes à s'intéresser à la réforme en Pays de Vaud, comme si Calvin, Genève avaient occulté tout le reste, et en tout cas toute l'attention des historiens et des théologiens, ça c'est sûr. Pourtant, ce n'est de loin pas sans intérêt de se pencher sur cette période, et aujourd'hui, eh bien, je vous propose de vous attarder en particulier sur les bailliages communs. Karine Crouzat va dans un instant nous rappeler ce que c'est qu'un bailliage commun, mais avant cela, je tiens juste à préciser que nous aurons un invité de marque dans notre émission. Il s'appelle Pierre Fleur, c'est un notable d'Orbe qui a laissé toute une chronique vraiment truculente sur les événements qui ont lieu dans le Pays de Vaud entre 1530 et 1561. Ce sont des extraits qui sont lus par Silvio Dolzan, mais tout de suite, je vous propose de retrouver Karine Crouzat sur les bailliages communs.
Les bailliages communs sont des territoires administrés par plusieurs cantons confédérés. On a le cas particulier qui touche le canton de Vaud actuel, donc des bailliages entre Berne et Fribourg, Orbe, Chalons, Grandson et il y a aussi celui de Morat. Donc là, les deux cantons souverains ont la même autorité, du moins en théorie. Ils délèguent un bailli. Tous les 5 ans, le bailli est bernois. 5 ans après, il est fribourgeois. Et puis quand le bailli est bernois, il prend ses ordres de Fribourg et ça assure une certaine justice. Et puis, ça va poser des problèmes au moment où Berne passe à la réforme. En 1528, jusqu'à présent, les deux cantons étaient catholiques. Il n'y avait aucun souci de gestion du point de vue religieux pour ces bailliages communs. Mais dès le moment où un des deux souverains devient protestant et l'autre reste catholique, ça pose un certain nombre de problèmes administratifs. Alors, comment est-ce qu'ils vont régler la situation ? De manière assez tolérante, en tout cas d'après nos critères d'aujourd'hui, en disant que c'est chaque paroisse qui va pouvoir se déterminer sur sa religion. Là où c'est pas tout à fait égal, c'est que Berne, étant beaucoup plus puissant que Fribourg, parvient à faire un accord où les réformés ont un avantage important, c'est que si la majorité de la paroisse vote en faveur de la messe, du catholicisme, les protestants ont toujours le droit d'exercer leur religion. Donc on a une sorte de simultanéum, les deux religions coexistent dans la même paroisse, on se partage les lieux de culte, les heures, etc. Donc on a cette cohabitation des deux religions. Mais le jour où les protestants gagnent la votation, on peut revoter plusieurs fois, le jour où les protestants gagnent cette votation, on abolit la messe, on sécularise les biens de l'Église catholique, on abolit le clergé catholique, et en fait, c'est fini pour le catholicisme. Donc, cette inégalité de traitement des catholiques dans ce système de coexistence religieuse des bailliages communs berno-fribourgeois.
Et tout ça va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années, hein, ça se fait pas comme ça, puisque commune après commune, paroisse après paroisse, plutôt, ils vont opter pour l'une ou l'autre des religions. Pour en parler, on a un témoin assez exceptionnel qui s'appelle Pierre Fleur. Présentez-le-nous, Karine Crouzat.
Pierre Fleur, effectivement, c'est une source exceptionnelle pour les historiens qui travaillent sur le Pays de Vaud et plus largement sur la coexistence religieuse à l'époque moderne. C'est un témoin des événements qui habite Orbe, un notable d'Orbe qui a été gouverneur plusieurs années de cette ville, qui est resté catholique de cœur et qui décrit pour les générations futures. C'est ainsi qu'il le présente.
Il se donne une mission ?
Il se donne une sorte de mission. C'est ainsi qu'il le présente dans le préambule de ses mémoires, qui présente la manière dont la réforme a gagné du terrain dans sa commune et dans les environs, dénonce en fait les manigances des protestants, jusqu'au jour où Orbe vote en fait en 1554 et abolit le catholicisme. Donc Pierre Fleur rédige sa chronique quelques années après et nous décrit vraiment, de son point de vue de catholique convaincu, la progression de la réforme, les tensions entre catholiques et protestants, la manière dont on essaye de diffuser les idées, dont la population d'Orbe et des environs résiste. Donc c'est une source vraiment exceptionnelle. En plus, il cite des documents. Il est très fiable, il cite des documents que les souverains ont envoyés aux urbigènes ou les délégations que les habitants d'Orbe font auprès des souverains de Fribourg ou de Berne. Donc c'est une source vraiment exceptionnelle pour nous et qui présente le point de vue catholique, alors que d'habitude on a plutôt, grâce à la correspondance des réformateurs, le point de vue des protestants victorieux en fait.
Pour ce que la mémoire des tribulations advenues en la ville d'Orbe ne soit mise en oubli, vu que celle-ci est à présent succombée en la loi, ou plutôt secte luthérienne, qui à présent veut être appelée évangile outre le vouloir des principaux et gens savants de la dite ville, moi, le grand Bandret, ayant vu la déduction du tout âge, l'ai bien voulu mettre en mémoire par ordre depuis le commencement jusqu'à la fin. Aussi semblablement sera entremêlée en ce présent traité la prise du pays de Vaud faite par les seigneurs de Berne sur le duc de Savoie et la ruine et désolation des églises du dit pays de Vaud. Priant à tous ceux qui ce présent livre liront qu'ils soient de tous admis et reçus en bonne part et non avoir égard à mon rude, mal orné et simple langage, lequel est rude selon la forme et style du pays.
Ce qui est intéressant, c'est que Pierre Fleur, finalement, consacre sa chronique non seulement à Orbe, là où il habite, mais il a l'air d'avoir des renseignements beaucoup plus loin à la ronde. Il a l'air d'être très au courant de ce qui se passe aussi en France et ailleurs.
Il s'intéresse non seulement à Orbe, au Pays de Vaud, à la Suisse, mais aussi à la France, à l'Allemagne, à tout ce qui se passe du point de vue de l'avancée de la réforme, aussi des anabaptistes ailleurs que dans son cercle restreint. Là, évidemment, c'est pas un témoin oculaire pour ce genre d'événements. Donc, pour nous, il est moins intéressant du point de vue historique de témoignage. Il se base essentiellement sur un historien de l'Empire qui s'appelle Slédan, pour tout ce qui concerne le reste de l'Europe, si on veut. Et ce qui est très drôle, c'est que Slédan est protestant. Donc il y a des fois quelques phrases de la bouche d'un protestant qui transpirent au sein de l'œuvre de Pierre Fleur, qui est catholique.
Les affaires resteront en telle sorte jusque le samedi suivant, que le prédit Guillaume Farel, prédicant de la doctrine et loi luthérienne, commis et député de par les seigneurs de Berne pour prêcher en leur dite ville d'Orbe, à la droite à l'église. Auquel lieu il attendit jusqu'à ce que l'office de l'église fût achevé. Ceci étant fait, le dit Farel se mit en chaire pour prêcher. Et, grand merveille, je m'étonne des petits-enfants, lesquels d'eux-mêmes et sans conseil se mirent tous devant et alentour de la chaire, se couchant et faisant les dormants. Et, après avoir demeuré quelque peu, tous s'en sortirent hors de l'église, criant et hurlant à grand force, dont le dit Farel fut fort ébahi. Aussi furent plusieurs de la ville. Et n'eut le dit Farel en son sermon que trois auditeurs. Le dit premier sermon qui se fit en l'église de la ville d'Orbe ce jour de l'an 1531.
Voilà un extrait où l'on voit bien que Guillaume Farel est quelque peu malmené lorsqu'il tente de propager les idées de la réforme, notamment à Orbe.
Oui, les Bernois avaient imposé aux habitants d'Orbe ces prédications de Farel Et en 1531, la très grande majorité des urbigènes n'avaient aucune envie d'écouter Farel. Donc là, on a vu la réaction spontanée, en tout cas du point de vue de Pierre Fleur, des enfants qui font une sorte de blague dans l'église pour décrédibiliser Farel. On sait aussi, d'après Pierre Fleur, que les femmes ont attaqué Farel pour le faire descendre de la chaire, lui ont tiré les cheveux, l'ont frappé, l'ont griffé. Il a dû vraiment être protégé par un magistrat pour qu'il reste en vie. Donc vraiment une résistance. On peut se demander pourquoi c'est les femmes qui l'attaquent. Peut-être aussi qu'elles risquaient moins du point de vue juridique qu'un homme. En cas d'acte criminel, une femme était jugée comme moins responsable, donc moins punissable aussi qu'un homme. Peut-être que c'est ça, mais ça c'est une interprétation.
La dimanche fête Visitation de la Vierge Marie, qui est le deuxième jour de juillet, fut déroché et mis par terre le grand autel du cœur de la grande église de Notre-Dame en la ville d'Orbe, par Christophe Hollard, présent le populaire, qui tous le regardaient à leur grand regret et sans lui rien faire. La cause était pour ce qu'il pensait que le dit Christophe eut quelques mondements des seigneurs de Berne. Successivement, le lundi suivant, le dit Christophe, joint avec lui environ 11 ou 12 de ses complices, dérochèrent tous les autres autels. En ce jour furent dérochés 26 autels. Mais le divin office ne cessa point en la dite ville, car au lieu des autels, on portait tables sur lesquelles on chantait la Sainte Messe.
On a Farel qui prêche, mais on a aussi des gens qui concrètement, physiquement, bousculent les croyants en enlevant les autels.
Ouais, Christophe Hollard, dont Pierre Fleur parle dans cet extrait, c'est vraiment l'agitateur à Orbe, celui qui n'hésite pas à faire des actes violents, iconoclastes. Donc là, il abat des autels. L'autel est le symbole en fait de la messe qui est critiqué comme une abomination par Farel et ses camarades à ce moment-là. Donc c'est pas un hasard qu'on s'attaque à l'autel. Et puis on voit aussi dans cet extrait que les habitants d'Orbe, même s'ils regrettent ce geste qui est là fait en public, il y en a d'autres qui sont faits de nuit, on abat des croix, Christophe Hollard et ses complices abattent aussi des croix de nuit, mais là il est fait en plein jour avec la population d'Orbe présente, mais on n'ose pas réagir parce qu'on pense que Hollard a un ordre de Berne. Et on a envie à la fois de suivre sa foi catholique, mais aussi d'être un bon sujet. Ça transparaît tout du long de la chronique de Pierre Fleur. Il veut se montrer comme un sujet fidèle à la fois de Berne et de Fribourg.
Et concrètement, qui va peu à peu adhérer aux idées de la réforme?
Ça se fait vraiment très progressivement. On voit dans le premier prêche de Farel qu'il a extrêmement peu d'auditeurs, donc c'est vraiment quelques personnes. Progressivement, ça vient une dizaine, une vingtaine de personnes, mais ça avance très lentement. Et l'année 1531 est vraiment une année de confrontation très violente entre les pro- et anti-réformes à Orbe. Ça dégénère pratiquement en guerre civile. Les catholiques doivent venir en armes à la messe pour éviter qu'on attaque les prêtres. Ça dégénère au point qu'en 1532, Berne et Fribourg publient des ordonnances pour essayer de régler la situation de manière plus pacifique, justement en distribuant les lieux de culte à certaines heures, c'est telle religion, à certaines heures, c'est une autre religion. Essayer de dire, voilà, maintenant, chacun peut choisir son camp, a le droit d'aller écouter la messe ou le droit d'écouter le prêche selon sa conscience personnelle. Et on n'oblige plus les uns et les autres à aller écouter Farel ou un autre. Donc on calme le jeu, on met 532.
À ce moment-là, on a le choix.
On a le choix, voilà. Jusqu'au moment où, de nouveau, le vote majoritaire va pencher du côté de la réforme. Et à ce moment-là, ça se passera en 1554, on n'aura plus le choix. Mais entre 1532 et 1554, avec ces ordonnances de, qui servent à pacifier la situation, on arrive à une situation plus tranquille que cette année 31 avec tous ces actes iconoclastes, ces conflits ouverts entre catholiques et protestants à Auch.
Le jour de dimanche de Pâques fleuri, en la religion des sœurs de Sainte-Claire, y avait le père visiteur, ancien docteur en théologie nommé frère Rabani, lequel se mit à prêcher en l'église des dites sœurs. Et sur ce, plusieurs y accoururent et prenaient grand plaisir à l'ouïr. D'autre part, Pierre Viret, prédicant, prêchait en la grande église, lequel fut averti du dit prêche, et subitement le dit Viret dit à ses complices « Allons au couvent des sœurs, auquel lieu on prêche. » Et ce disant, sortit hors de la chaire et allèrent au dit couvent et trouvèrent le dit Rabani prêchant et affirmant que si nous voulons parvenir à la félicité éternelle qui est paradis, il nous est requis de faire de bonnes œuvres. Sur lesquelles paroles, Viret, plein de grande folie, d'orgueil, d'outrecuidance et de grande présomption, le démentit devant tous. Auquel démenti, le dit Rabani fit réponse « Mon enfant, tu es bien jeune pour démentir un tel vieillard que je suis. » Et sur ce, le dit Viret le démentit encore une fois. Alors, il y eut gros bruit et mutination, on l'a dit église, entre le peuple. Finalement, chacun se retira sans autre chose faire.
Avec cet extrait et puis les deux précédents, on a une bonne idée de ce qui se passe à Orbe. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs, dans les autres bailliages ?
Dans les autres communes du bailliage d'Orbe, Chaland et Grandson, ça se passe plus ou moins de la même manière. Même aussi avec les mêmes personnages. Viret, Farel se déplacent, ils vont à Grandson se battre avec les religieux de l'endroit au sens propre, mais surtout au sens figuré. Donc c'est des combats d'idées avant tout. Il y a quelques communes qui vont résister à cette pression protestante et qui vont, chaque fois qu'en plus donc cette votation de religion est organisée, refuser à la majorité des voix de passer au protestantisme. Et c'est pour ça qu'on a eu des communes catholiques comme votant tout du long de l'histoire, en fait. Jusqu'à nos jours, on a eu la paroisse catholique, même si la majorité du pays de Vaud et de tous les territoires alentours étaient protestants. Mais comme c'était une commune qui faisait partie d'un bailliage commun entre Berne et Fribourg, ils avaient cette liberté de choix. Et tant que la majorité de la population était en faveur de la messe, on ne l'a pas abolie.
D'accord. Mais quelque part, Botan était quand même une exception par rapport à toutes les autres paroisses.
Il y en a eu une poignée. C'était pas la seule, mais la grande majorité a passé à la réforme, en effet.
Dont, par exemple, Oulan, à la deuxième tentative, la paroisse d'Oulan, visiblement, a basculé dans le camp de la réforme, mais les choses ne vont pas de soi. On entend encore un extrait de Pierre Fleur qui nous parle de Oulan et de sa votation.
Le lundi, le 5 de mars de l'an 1553, les seigneurs commis ambassadeurs des deux villes Berne et Fribourg, persévérant au plus, vinrent à Oulan, où ils firent le dit plus. De la part de la messe se trouva 15 personnes, et de la part du prêche, 24 personnes. Alors chacun s'en tourna d'où il était venu, laissant les affaires en tel ordre. Le dimanche de Pâques fleuri, qui fut le 26e jour du mois de mars de l'an 1553, le curé de la paroisse du dit Oulan fit au matin, aux heures accoutumées, la bénédiction de l'eau bénite et des rameaux. Comme ils voulurent rentrer dans la dite église, ils trouvèrent le bailli d'Orbe, résident à Échalon, lequel était de Berne, nommé Zeinder, qui mit par terre tous les ornements de l'autel et prit le calice, lequel, parce qu'il était d'argent, il emporta. Le curé, voyant cela, dit au bailli pourquoi il ne lui laissait faire et achever son office. Le bailli lui répondit que le vouloir de messieurs était ainsi et qu'il fallait user de patience, lui faisant défense de chanter messe. Sur laquelle défense, le curé se dépouilla de ses habits, bien triste et dolent. Aussi furent les bons chrétiens, lesquels désiraient demeurer perpétuellement au service de notre Seigneur. Et par ainsi, chacun se retira en sa maison.
Dans cet extrait, on voit que le jour du vote, rien vraiment ne se passe. C'est seulement un mois plus tard que le bailli vient et interrompt le curé dans son office et dit « maintenant, c'est terminé ». Et c'est là, finalement, que la messe s'arrête pour toujours dans la paroisse d'Oulan. Et ceux que Pierre Fleur appelle les bons chrétiens, donc les catholiques, ont rien d'autre à faire que de rester, c'est en tout cas son cas, intérieurement convaincus par le catholicisme, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent pratiquer extérieurement le culte réformé. Certains choisissent de s'exiler, mais c'est vraiment une très faible minorité. La plupart des gens restent et s'adaptent finalement.
Puisqu'on est à l'époque aussi où on n'est pas à une époque forcément sécularisée, donc le choix c'est soit adopter la nouvelle religion et donc aller au culte, ou soit s'en aller.
Ouais, il n'y a pas d'autre option. Les habitants d'Orbe pensaient qu'ils pourraient aller écouter la messe dans la paroisse d'à côté, vu que chaque paroisse se déterminait en 1554, après le plus. Pendant quelques mois, ils continuent d'aller dans les paroisses d'à côté, mais Berne interdit aussi cela. Donc vraiment, on est obligé, si on est habitant d'une paroisse qui a passé du côté de la réforme, d'assister uniquement au culte réformé. On n'a plus le choix.
Il y a des événements assez cocasses, il y en a plein, dont Pierre Fleur nous fait le récit. Un particulièrement, alors je ne sais pas s'il est très représentatif, c'est le curé de Montagny, on est donc à Montagny près Yverdon, qui un jour annonce qu'il ne dira plus jamais la messe.
Le dimanche 8e jour de juillet, vénérable messire Michel de Coppet, curé de Montagny, chanta au matin sa dernière messe paroissiale. Et après avoir chanté et achevé son office, il dit que la messe était de nulle valeur et lors la renonça. Et puis, ceci étant fait, alla fiancer une femme, qui auparavant avait été amenée en ce pays par un jacobin nommé maître Jean Balbus. Après la mort de celui-ci, le dit Coppet fiança la dite femme. Le dit messire Michel Coppet était homme qui avait peu de savoir. Pour toute conclusion, il ne valut guère. Et dès lors, le divin office cessa en la dite église de Montagny.
Alors à Montagny, pas de plus, pas de votation de la part de la population. C'est le curé qui décide de passer directement de lui-même à la réforme.
Oui, ça c'est un cas assez exceptionnel en effet. En plus là, le curé dit une dernière fois la messe et à la fin de la messe dit « voilà, cette messe que j'ai dite est de nulle valeur, ne sert à rien » et passe du côté protestant devant ses paroissiens. C'est spectaculaire. La raison implicite avancée par Pierre Fleur ici, c'est qu'il aurait souhaité se marier avec cette femme. C'est par les protestants eux-mêmes une critique qu'ils font à leur propre camp. Viret critique certains anciens moines ou anciens membres du clergé catholique qui se seraient convertis à la réforme uniquement pour avoir un plus grand nombre de libertés, dont celle de se marier.
C'est vrai que dans ceux qui passent à la réforme, il y a à la fois des prédicants, des pasteurs comme Pierre Viret qui n'ont pas été ordonnés avant de passer à la réforme. Et puis il y a les moines ou les prêtres qui se convertissent quelque part.
Qui se convertissent, qui passent à la réforme. Bon, dans le cas du Pays de Vaud, c'est particulier parce qu'ils sont obligés par le souverain de se convertir.
Par rapport à ces gens qui ne vont pas opter pour la nouvelle religion, est-ce que beaucoup vont s'exiler? Est-ce qu'on sait ça, s'il y a vraiment un exil massif vers des territoires restés catholiques?
Ça a été étudié par un mémoire de licence il y a quelques années à l'Université de Lausanne au niveau du clergé. Le clergé vraiment est visé, est serré de très près par Berne. L'ancien clergé catholique, il doit se convertir ou partir. Et c'est environ la moitié qui reste et se convertit. Est-ce qu'ils se convertissent réellement ou simplement de façade? Ça, c'est une autre question. Et là, une moitié décide de quitter le Pays de Vaud et de rester catholique.
On est quelque part avec ces bailliages communs entre Berne et Fribourg dans une situation de compromis assez exceptionnel pour l'époque.
C'est un compromis effectivement exceptionnel pour le XVIe siècle où dans un même territoire, on a deux religions qui cohabitent, coexistent de manière plus ou moins pacifique. Normalement, chaque souverain définit une religion, sa religion, pour l'ensemble de son territoire. Du moment qu'on a plusieurs souverains sur le même territoire, deux religions différentes, on est obligé de trouver une situation exceptionnelle. Et ça laisse une certaine liberté de conscience à la population qu'on trouve pas ailleurs en Europe à cette époque-là. La situation de coexistence religieuse plus ou moins pacifique dans les bailliages communs entre Berne et Fribourg va servir de modèle plus largement en Europe, dans l'Empire et aussi pour la pacification après les guerres de religion en France. On s'inspire du modèle suisse.
D'une coexistence
religieuse où chacun est libre de choisir, de pratiquer sa foi, de choisir son camp religieux. Donc on essaie de ne pas forcer les consciences, même si chaque camp est persuadé d'avoir la vérité, même s'ils estiment qu'à terme, on va parvenir à une unité, parce que la vérité est unique et une. En attendant que la vérité triomphe d'une part ou de l'autre, on laisse chacun le choix de sa religion.
Karine Crouza, historienne, maître assistante à l'Université de Lausanne, qui nous faisait le récit du passage à la réforme dans les bailliages communs du Pays de Vaud, et Cécile Viaud-Dolzan, qui incarnait les chroniques de Pierre Fleur, témoin privilégié de cette période, Evelyne Auberçon.
Si vous avez été touchée par les récits de Pierre Fleur, sachez que vous les retrouvez tous assez aisément sur Internet. Les mémoires de Pierre Fleur ont été numérisées, et vous retrouvez aisément le lien en passant par le site pierrevirey.com.
Un site que vous trouvez via notre site à nous, esprit.rsr.ch.
Et c'est sur cette même page que vous retrouverez aussi toute la liste des événements qui sont prévus à l'occasion des 500 ans de Pierre Viret dans le canton de Vaud.
En tout cas, merci Evelyne Auberçon pour nous avoir fait découvrir cette figure de Pierre Viret et puis cette histoire passionnante de l'arrivée de la réforme dans le Pays de Vaud. La semaine prochaine, c'est Céline Auclin qui sera là pour donner la parole à Christian Bobin, un auteur connu, célèbre, un auteur spirituel, Les étincelles de Christian Bobin, un univers dans lequel vous allez entrer dès lundi à 10h30 dans la Vue d'Esprit.
Cette série vous a passionné ? Vous souhaitez la réentendre ou vous avez manqué un épisode, vous pouvez commander une partie ou l'entier de la série en nous appelant au 021 318 60 70. 021 318 60 70. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 11h.